Bonjour à tous. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue et remercier toutes les délégations d'être ici avec nous dans cette réunion après presque 3 ans de réunions en distanciel à cause des limitations de la pandémie. Aujourd'hui, il est possible de réaliser une réunion de notre commission de l'environnement, de l'énergie et de l'eau pour l'Assemblée parlementaire pour la Méditerranée. Et je suis très heureux de pouvoir tenir cette réunion ici à l'Assemblée de la République au Portugal. Je remercie la présence de Madame la vice-présidente de l'Assemblée de la République, Madame la députée Edith Stril, qui représente Monsieur le Président de l'Assemblée de la République. Je voudrais lui passer la parole pour ouvrir nos travaux. Bonjour à tous et à toutes. Je salue tout spécialement les membres de la Commission de l'énergie, de l'environnement et de l'eau de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée qui sont venus de différents pays et qui nous visitent ici aujourd'hui au nom de Monsieur le Président de l'Assemblée de la République, Monsieur Augusto Santos Silva. Je vous souhaite la bienvenue au Parlement portugais. Le lien de l'Assemblée de la République à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée est déjà long. Il y a une longue histoire à raconter. L'Assemblée de la République a déjà eu la présidence de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée de février 2014 à janvier 2015, la Commission pour les échanges entre les sociétés civiles et de la culture a été présidée entre 2008 et 2012 par le député portugais, ex-ministre, M. Eduardo Cabrita. Et récemment, dans le mandat de 2016-2020, Madame Margarida Mano, députée, a présidé à la Commission économique des affaires sociales et éducation et le député Chen Simões a été vice-président de la Commission de l'énergie, de l'environnement et de l'eau de cette commission. Et comme vous le savez, depuis septembre 2020, la présidence de cette commission est exercée par un membre du Parlement portugais et je profite de l'occasion pour féliciter le président de la commission, monsieur le député Bruno Coimbra, et les autres membres d'avoir choisi, non seulement d'avoir choisi Lisbonne et l'Assemblée de la République pour la réalisation de cette réunion, mais aussi pour avoir choisi pour le débat d'aujourd'hui des thèmes aussi importants et aussi actuels que les changements climatiques, l'agriculture, l'énergie, l'économie circulaire, la biodiversité et les pratiques de transparence et participation dans la prise de décision des États membres. Et je voudrais dire quelques mots sur la plus grave crise à laquelle l'humanité fait face, la crise climatique. Le secrétaire général des Nations Unies et ex-premier ministre portugais, M. António Guterres, a déclaré récemment que l'humanité est face à un choix existentiel, l'action collective ou le suicide collectif. António Guterres a montré à travers les actions et les mots la gravité de la situation. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu dans la revue Time la couverture. Il y a M. Guterres avec l'eau aux genoux. C'est l'un des pays les plus affectés par la montée des eaux causée par le surchauffement. Les climatologues ont dit que la sécheresse de la dernière année, l'année qui vient de se terminer en Europe, mais aussi dans le reste du monde, a été la pire sécheresse des dernières 500 années. Au Royaume-Uni, en Allemagne, en Inde, au Pakistan et même dans le cercle polaire arctique et en Sibérie, on a battu des records de température. Et à la fin de l'année, début de cette année, on a vu des pluies torrentielles et des villes complètement inondées. Ceci montre le cauchemar qui nous attend. Ce qui nous attend, si on ne fait rien pour l'éviter, c'est que le niveau de la mer monte et les villes côtières sont submergées, provoquant des milliers de réfugiés climatiques. Ce qui nous attend, c'est l'augmentation de la mortalité humaine et l'extinction d'espèces végétales et animales. Et la crise climatique menace tous les progrès obtenus après la Deuxième Guerre mondiale. Les ressources naturelles ne sont pas infinies. La nature ne résiste pas à tout. Et ne voulant pas être alarmiste, tel que Richard III dans la pièce de Shakespeare voulait échanger son règne pour un cheval, on peut arriver au point de vouloir échanger les biens matériels dont on n'a pas besoin pour de l'eau potable et de l'air pur. La crise environnementale ne peut être résolue qu'avec l'engagement de tous, avec la participation de tous. Sommes-nous disponibles pour prendre moins l'avion et échanger la voiture contre les transports en commun? Sommes-nous capables de changer nos modèles de consommation et de style de vie? Sommes-nous tous impliqués dans ce combat? Et ce n'est qu'ainsi qu'on peut éviter la catastrophe. C'est notre responsabilité de laisser aux nouvelles générations une planète habitable. Comme l'a dit Sharon Gill, nous faisons partie de la Terre et elle fait partie de nous. Faire du mal à la Terre signifie faire du mal à nous-mêmes. La Terre ne nous appartient pas. Nous l'avons prise, nous avons pris la terre à nos enfants, on l'a empruntée. Et je vous souhaite donc un bon travail, un bon séjour et un bon retour chez vous. Merci de votre attention.
Muito obrigado, senhor.
Merci, Madame la Vice-Présidente, pour ces mots d'ouverture qui sont une bonne source de réflexion pour nos travaux d'aujourd'hui. Et je remercie votre disponibilité pour avoir ouvert nos travaux. Et nous allons prendre note de votre message. Merci beaucoup.
Muito bem. Vamos então.
Nous allons donc débuter notre réunion et pour accompagner notre réunion, nous avons ici Monsieur le député Hugo Oliveira, vice-président de la Commission de l'Environnement et Énergie de l'Assemblée de la République et Monsieur Pedro Roque, président de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, à qui je remercie de sa présence. Et plus tard, Monsieur Duarte Pacheco va nous rejoindre, président de l'Union interparlementaire. Et nous passons au point 2, l'adoption de notre ordre du jour pour aujourd'hui. Et s'il n'y a pas d'objection, je considère notre ordre du jour adopté. Donc, le silence est signe de confirmation. Donc, l'ordre du jour est adopté. On passe au point 3, approbation du procès-verbal de la réunion précédente tenue le 3 décembre 2021. Le document a été distribué à toutes les délégations dans les langues officielles. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui a un commentaire à faire concernant ce procès-verbal qui vous a été envoyé. S'il n'y a pas de commentaire, je vais passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, notre procès-verbal est approuvé et le point 3 est clos. Ensuite, on passe aux annonces de la présidence et je vais vous transmettre quelques informations. Dès lors, en ce qui concerne la composition de notre commission d'énergie, environnement et de l'eau, qui est présidée par le Portugal, par moi-même, et il y a pour vice-président le Parlement européen, Mme Agnès Evren, et de l'Algérie, M. Rachid Achour, et la Tunisie, qui n'a pas encore nommé de député, puisque le Parlement tunisien est suspendu. Concernant notre plan d'activité, on a défini comme prioritaire les thèmes des changements climatiques, l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique, la pollution dans la Méditerranée et le thème de l'effet de la crise des réfugiés dans les infrastructures de l'eau et de l'énergie dans les pays d'accueil. Et dans ce contexte, nos activités ont été jusqu'à présent et continueront de l'être développées autour des changements climatiques, de la dégradation de l'environnement et des objectifs de développement durable, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, des ressources hydriques et des stratégies de reprise dans l'après-Covid. On veut continuer de mener le dialogue et impliquer d'autres parties prenantes et d'autres organisations interparlementaires et d'autres structures telles que le cabinet d'information méditerranéenne pour la culture et le développement durable, le cercle de parlementaires de la Méditerranée pour le développement durable, et on veut promouvoir et participer aux initiatives de l'Union pour la Méditerranée et à la conférence des parties sur la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et dans cet alignement, j'ai développé en tant que président de cette commission plusieurs contacts et promu des réunions avec le professeur Michael Scholes, président du Bureau d'information méditerranéenne pour l'environnement, culture et développement durable et pour le mouvement de l'eau de la Méditerranée. Et j'ai participé à des événements organisés. On a débattu les changements climatiques, l'énergie renouvelable, transition énergétique dans la Méditerranée, des thèmes centraux dans le mandat de notre commission en 2022. L'année qui vient de se finir, j'ai été à la conférence internationale de jeunes parlementaires de la Convention interparlementaire en Égypte. J'ai eu l'occasion d'accompagner le président de l'Union interparlementaire à une réunion avec les membres de la Ligue arabe. Et en qualité de président de cette commission, j'ai été invitée à prendre la parole dans les événements de la 9e conférence ministérielle de l'environnement pour l'Europe sur l'éducation pour l'économie circulaire, tourisme durable et développement durable, organisée par la République du Chypre avec le soutien de la coopération économique pour l'Europe. Et ce sont là les informations que j'avais à partager avec vous, avec la Commission. Concernant le point qui nous réunit ici, le point 5, je voudrais vous dire que le projet de recommandation a été distribué à toutes les délégations dans les langues officielles. Et ce projet de recommandation se centre sur certaines idées fondamentales, parmi lesquelles la reconnaissance de l'appel des citoyens au besoin de protéger, restaurer la biodiversité, le paysage, les océans et éliminer la pollution et promouvoir l'éducation pour la durabilité et le besoin de créer des alliances et des partenariats pour améliorer la connaissance et la qualité de vie en ce qui concerne le climat. On souligne le besoin d'encourager les parlements et les pays à coopérer, mettre en œuvre des plans ambitieux pour la dépollution et reconnaît les vrais enjeux de la gestion de l'eau et le besoin d'y faire face et l'importance d'accès à l'eau potable et les risques des changements climatiques dans la qualité de l'eau et reconnaît l'importance de la reforestation dans le combat et la lutte contre les changements climatiques et la biodiversité. Restaurer les écosystèmes pour combattre, lutter contre les changements climatiques et l'importance de l'investissement en développement et innovation en technologie verte. Et on se centre aussi sur l'agriculture et reconcevoir des pratiques agricoles et pour réduire la consommation de ressources naturelles, préserver les sols et faire une utilisation efficace de l'eau et accélérer la transition énergétique et reconnaître les problèmes des prix élevés de l'énergie dus à la guerre en Ukraine et la pénurie énergétique ressentie par la population dans la région de la Méditerranée. En ce qui concerne l'économie circulaire, les États doivent accélérer la transition vers des modèles régénératifs pour permettre la croissance économique et l'utilisation des ressources dans une planification qui rend possible l'économie circulaire. La perte de biodiversité, les changements climatiques sont un risque pour la santé publique, pour le bien-être, et il est nécessaire des politiques plus ambitieuses pour protéger la biodiversité qui est fortement touchée par l'activité économique humaine. Et finalement, le projet que nous débattons aujourd'hui se réfère aussi à la transparence et participation, attirant l'attention sur le fait que les parlements doivent être plus ambitieux concernant la législation sur l'environnement et sur le climat de façon transparente et avec la participation de la société civile. On fait appel à tous les pays de la région pour ratifier la Convention d'Aarhus. Et je passe la parole maintenant à tous les membres de la commission qui veulent se prononcer sur ce projet. Et je remercie les interventions et les contributions que vous allez apporter. Et comme c'est une première rencontre en présentiel au bout d'un moment de difficulté, donc je voudrais vous demander de vous présenter au début de vos interventions pour qu'on puisse mieux se connaître. Je vous remercie et je passe donc la parole à ceux qui veulent bien dire quelque chose là-dessus. Si vous voulez vous inscrire, faites-le. Monsieur le député de la Turquie.
Turkey, yes, yes, Turkey.
Allez-y. Chers participants, membres de cette assemblée, c'est un plaisir pour moi de participer à cette commission. Et j'aimerais remercier la République portugaise de nous accueillir aujourd'hui. Nous sommes confrontés à plusieurs défis sur l'énergie sécurité et le changement climatique ont un impact très important. Et il y a plusieurs défis qui demandent plusieurs coopérations à plusieurs niveaux. Le thème le plus important sur notre ordre du jour, c'est l'énergie. nous sommes confrontés à une crise énergétique. La guerre en Ukraine aussi a eu un impact au niveau mondial et qui affecte toutes nos économies. La guerre nous rappelle l'importance critique au niveau de la planification de l'énergie. Et la fourniture de l'énergie est une priorité, une énergie qui soit très important au niveau de ce pilier. Et nous croyons que ce processus de l'énergie et de cette énergie et de la neutralité du carbone est important. Et il y a plusieurs pas à entreprendre. Donc, avoir une approche plus réaliste, plus équilibrée. Et il faut maintenir certains rôles. La transition énergétique ne doit pas être réalisée aux dépens de notre économie et de nos sociétés. Et la décision et la planification, la transition, diversification doit être bien planifiée. Il faut éviter certains aspects. Il faut avoir une vision stratégique pour pouvoir diversifier nos sources énergétiques et réaliser des investissements à ce fin. J'aimerais souligner que nous avons besoin d'une coopération unilatérale et internationale qui agisse. Et à la fin de la journée, à la fin de la journée, on doit tous travailler ensemble pour atteindre cet objectif commun. Et cette énergie est une base solide pour cette coopération. Et nous sommes prêts à coopérer, même s'il existe des difficultés. Nous voulons travailler avec nos partenaires dans nos régions. La crise climatique n'a pas de limite et les pays ne sont pas immunes. Donc, il y a ce défi mondial et la région méditerranéenne doit surmonter ces changements. Et au niveau du bassin méditerranéen, les changements climatiques surmontent certaines tendances et la transition des énergies renouvelables sont très importantes pour lutter contre le changement climatique et plusieurs niveaux. La région méditerranéenne peut jouer un rôle exemplaire au niveau de la transition énergétique et nous pensons que cette lutte doit être renforcée au niveau de la coopération. La Turquie est un membre fondateur pour l'Union européenne, méditerranéenne et l'Union européenne, les pays candidats qui contribuent à plusieurs niveaux en renforçant la sécurité énergétique, en protégeant l'environnement, en luttant contre le changement climatique. Donc, la Turquie veut réduire ses émissions pour pouvoir contribuer à ce minimum à 41% pour l'objectif d'émission zéro en 2020. Nous avons aussi soumis notre candidature pour accueillir une réunion 2026 et aussi, la Turquie attache de l'importance à l'adaptation résistance et pour appuyer, pour soutenir les niveaux régionaux, lutter contre le changement climatique, la Turquie propose de réaliser plusieurs activités au niveau de cette lutte pour la protection de la mer au niveau de la pollution, pour encore une fois lutter contre le changement climatique et renforcer les capacités, les ressources financières pour protéger la recherche, information, communication et surveillance, évaluation. Mais les renouvelables et d'autres ont augmenté à 54%. Et à cet égard, la Turquie, en ce moment, est cinquième en Europe et douzième au niveau mondial. Et j'aimerais aussi remercier cette commission d'avoir rédigé des recommandations qui présentent un aperçu sur les aspects régionaux, sur l'énergie, environnement, pollution, pour pouvoir adresser plusieurs défis. Et nous remercions toutes les contributions qui ont été faites finalement. J'aimerais aussi de vous dire que la réunion de la commission sur les aspects financiers et l'éducation va se réaliser le 27 janvier et j'espère vous accueillir à Istanbul pour pouvoir discuter plusieurs autres thèmes sur cette réglementation. Merci.
Merci, Monsieur le député. Je serai moi-même à Istanbul ce mois encore. Et je passe la parole maintenant à Monsieur le député de la Lituanie qui a demandé la parole.
Obrigado, Señor Presidente.
Merci, Monsieur le Président, chers collègues, chers amis. Merci pour cette opportunité d'être là dans cette réunion avec vous. Je voudrais remercier le Parlement du Portugal d'avoir organisé cet événement important. C'est une opportunité excellente pour le dialogue et la coopération de la région euro-méditerranéenne. Aujourd'hui, nous allons réaffirmer notre engagement pour le développement, pour atteindre les objectifs de développement durable et les États membres et nos voisins de la Méditerranée, du Sud et de l'Est, et on fait de notre mieux pour restaurer les écosystèmes et contribuer à faire face au changement climatique et d'amener la discussion à un haut niveau. Ceci est lié aux questions de la protection climatique et de la perte de biodiversité. Peu importe la région, nous partageons tous le même objectif d'avoir des fournitures d'énergie propres à nos citoyens. Mais on ne peut pas faire cela tout seul. Notre coopération et l'échange de bonnes pratiques est importante. Et pour atteindre le futur net zéro, il faut que tous s'unissent dès aujourd'hui pour atteindre ce but. Et je vais vous laisser ici quelques chiffres. Notre engagement vers la neutralité climatique en 2025 et nous sommes prêts à dédier tous les efforts nécessaires nous avons un débat et nous avons fait un progrès en termes d'émissions de CO2 de 58% jusqu'en depuis 1988, on a réduit aussi les émissions de gaz à effet de serre de 20%. La Lituanie continue à soutenir la transition d'énergie propre et essaye de faciliter le plus possible cette transition. Et nous soutenons les ambitions d'énergie renouvelable et nous sommes engagés de fournir 50% d'électricité renouvelable d'ici 2027 et 100% en 2050. 100% d'électricité renouvelable. Dans la Méditerranée, nous avons une plateforme qui est disponible pour encourager la transition énergétique et nous misons sur les renouvelables et l'efficacité énergétique et nous avons un cadre réglementaire pour les partenariats publics-privés. L'Union pour la Méditerranée est un format qui cherche l'intégration des marchés d'énergie et qui essaye d'encourager l'interconnectivité. C'est un mot difficile. Et en Lituanie, nous sommes déterminés à mettre en œuvre une synchronisation stratégique sur les grilles énergétiques, électriques et les voltaïques et pour assurer la sécurité et la renouvelabilité de nos systèmes énergétiques. La sécurité énergétique est une priorité et une partie intégrante de la sécurité nationale en Lituanie. La Lituanie cherche à mettre cela en œuvre depuis des années. Et aujourd'hui, la Lituanie est une région 3.0 et au printemps de l'année dernière, nous avons zéro gaz russe, zéro électricité russe, zéro charbon russe. Nous avons atteint une indépendance totale de l'énergie russe. Et il y a un élément important pour atteindre cette indépendance énergétique et opérer la transition vers l'énergie neutre du point de vue du climat. Nous avons un terminal énergétique, c'est un projet, c'est une ligne de développement du marché du gaz dans la région baltique de l'Est. Nous avons des apports alternatifs de gaz vers la Lituanie. Et aujourd'hui, les volumes de gaz pour la consommation en Lituanie, nous avons un terminal de LG, de gaz liquéfié, et pour les fournitures énergétiques. La Lituanie a pris détermination juridique et a pris une décision selon laquelle la capacité peut être utilisée pour fournir le gaz liquéfié à partir des États pour la sécurité nationale et la protection de ses intérêts sécuritaires. L'Union pour la Méditerranée et nous voulons augmenter la sécurité énergétique et diversifier les routes et les sources, les voies et les sources d'approvisionnement et la collaboration avec les innovations énergétiques. Et il est important d'opérer la transition énergétique. La Lituanie veut engager des partenariats pour la biomasse, l'énergie solaire et les technologies vertes. Chers collègues, je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président.
Muito obrigado, Senhor Deputado.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais demander s'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole.
Deputado de Marrocos.
Monsieur le député du Maroc.
Sabahoun Saïd, Sid Raïs.
Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les parlementaires, les députés respectables, Assemblée nationale interparlementaire méditerranéenne, merci infiniment pour cet accueil et pour cette ambiance excellente, Monsieur l'Aïechi, député parlementaire marocain. Je suis très heureux d'être parmi vous, Monsieur le Président. C'est un moment spécial et exceptionnel. Nous devons penser à l'avenir. Peut-être au niveau du Royaume du Maroc, sous l'égide de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, on a vraiment ancré un événement dans la gestion politique, dans la logique, et que pour être politicien, il faut être réaliste d'abord. Il faut se compromettre avec le réalisme. C'est la valeur et la valeur des conventions qu'on doit contracter et de son excellence et des législations en général. L'important, c'est de pouvoir appliquer et exécuter ces textes et ces conventions et ces lois. À quel point ils peuvent être d'application et en vigueur et d'effet sur la réalité. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies était vraiment clair quand il a parlé de la crise de l'environnement et de l'énergie est vraiment déontologique, ou bien on est ou on n'en est pas. Au Maroc, ça vraiment se croise avec nos croyances. Il faut s'éloigner des petits problèmes, des petits litiges et des petites questions et tout ce qui peut nous séparer et d'essayer de travailler de manière commune pour le devenir commun et d'affronter le futur pour nos enfants, nos générations et pour le bien-être de cette planète-là. Je crois que ce sujet, l'énergie, l'environnement et les changements climatiques ne sont restreints à un pays unique, mais vraiment font la destinée de toute l'humanité. Le succès ne peut être que si tout le monde est vraiment compromis jusqu'aux citoyens simples qui se trouvent dans les plus lointaines zones. Comme ça, on peut vraiment donner valeur et valoriser cette l'envergure de ce problème. Le député, donc, doit être également un participant. Et je parle de la citoyenneté positive et de la présence positive dans les espaces et dans les politiques générales et publiques en général. Sans doute, Monsieur le Président, mes chers collègues, au niveau du Royaume du Maroc, et je fais partie d'une institution enracinée dans la législation, je crois que les textes juridiques ou législatifs ont été promulgués par notre Assemblée. Donc, il y a des programmes et des thèmes à discuter, et on a donner toute la priorité numéro un à l'environnement. Et je vais donner un exemple. Nous avons une charte nationale pour l'environnement sous le numéro 9912. On a également une charte d'application obligatoire pour n'importe quel projet pour se réaliser, qu'il doit vraiment jouir du consentement et de l'autorisation du ministère de l'Environnement pour vraiment valoriser l'effet écologique et environnemental. On croit qu'on est en train de souffrir d'une crise hydrique pour le stress hydraulique, causé par le stress hydraulique qui nous incite à travailler de manière réaliste pour garantir aux générations futures leur droit à l'eau, à l'accès à l'eau. Les institutions marocaines et le Parlement marocain comme partie intégrante de la solution et non pas partie intégrante du problème. Donc notre appartenance et notre compromis et notre interaction positive avec ces projets environnementaux et de développement et de l'économie circulaire et de la neutralité carbonique et des changements climatiques n'est pas une défense des citoyens marocains, mais une défense pour toute l'humanité, pour toutes les générations futures et leurs droits et une vie digne. On sait le combat qu'on est à mener dans le futur, c'est une bataille d'état d'esprit et de conscience. C'est-à-dire que chaque citoyen doit vraiment se compromettre de manière holistique et réaliste pour protéger l'environnement et lutter pour l'environnement. Et si on revient à l'article 10 du sommet de la Terre de Rio de Janeiro, qui considère qu'on ne peut gagner la bataille du développement sans faire participer le citoyen simple ou le rendre comme premier soldat dans cette lutte. Donc je crois que durant le sommet de la Terre de Rio de Janeiro, elle a considéré que le défi important est vraiment le cœur de la Convention du Danemark pour l'accès à l'information sur l'environnement. Et je crois que c'est un moment historique et principal pour déontologiser et donner au texte législatif plus de réalisme au moment de leur exécution. Et je crois, Monsieur le Président, que sans doute, c'est une grande bataille parce que le défi est énorme et ceci nous incite vraiment à déployer davantage d'efforts sur tous les niveaux et sur toutes les dimensions, non seulement au niveau de l'école et de l'éducation, mais aussi pour construire un citoyen conscient des problèmes environnementaux et des changements climatiques liés à l'amélioration également du commerce, de l'économie productive et non pas de l'économie destructive. Et je parle de l'économie circulaire. Je crois que pour les résidus, on travaille au Maroc sur comment traiter ces résidus et le traitement circulaire pour ces résidus dans le but de générer des bénéfices économiques et des droits environnementaux dans le cadre de réduction de ces émissions et de la marge des dangers et des endommagements environnementaux. Et pour ne pas être long, Monsieur le Président, nous sommes au niveau du Royaume du Maroc compromis et conscients de l'envergure du problème et pour l'institution à laquelle je m'appartiens, le Parlement marocain, avec ses deux chambres, nous sommes en train de promulguer des textes de grande qualité et avec grande qualité, ça doit entrer dans un contexte holistique pour construire une carte ou une feuille de route garantissant la dignité et le droit à la vie pour les générations futures. Et merci, Monsieur le Président.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Pergunto quem mais pretende usar a palavra. Senhora Deputada da Hungria, tem a palavra.
Merci. Merci beaucoup, chers participants. Je voudrais vous remercier pour l'invitation et d'avoir organisé cet événement. C'est ma première fois dans cette réunion à Lisbonne. Mais je suis certaine que je reviendrai avec ma famille parce que, à mon avis, c'est l'une des villes capitales les plus extraordinaires. Et maintenant, en ce qui concerne le thème qui nous réunit ici aujourd'hui, l'importance et l'urgence de l'action climatique, en reconnaissant que le changement climatique est l'une des premières menaces de nos temps. Et nous sommes un petit pays en Europe, mais nous contribuons 1% pour l'émission mondiale. Mais nous ressentons les effets néfastes des changements climatiques. Et les choses ne sont pas au désespoir. Nous avons choisi ce que nous pouvons faire dans le domaine de l'action climatique. Et je vous donne quelques exemples de nos réalisations. La Hongrie a fait des progrès vers l'économie circulaire et verte dans différents domaines. Et 70% des déchets sont recyclés. En 2021, plus de 20% du territoire hongrois était inclus dans un réseau de préservation de la nature. Et nous avons aussi la réduction des émissions et le nombre de personnes exposées au bruit a été réduit de 70% entre 2012 et 2017. Et nous avons un plan d'action pour les zones rurales et pour les réseaux ferroviaires qui sont préparés. Et l'eau potable et la qualité de l'eau potable augmente et les risques de santé de l'accès à l'eau potable ont été réduits et nous avons un réseau dans la proportion de un réseau d'eau traitée. Et la Hongrie a atteint l'objectif de l'efficacité de la directive européenne et le Parlement hongrois, en 2020, s'est engagé à atteindre l'objectif de neutralité climatique en 2050 avec des scénarios de réalisation précoce. Et nous voulons maintenir notre capacité et augmenter la part d'énergie renouvelable dans le secteur. Nous faisons face à d'autres menaces et d'autres enjeux, comme vous l'avez mentionné auparavant, à cause de l'augmentation des prix énergétiques, à cause de la guerre en Ukraine et les pénuries en énergie dans l'Europe de l'Est. Et notre gouvernement a déclaré une situation d'urgence énergétique et a créé une opération et une task force, un groupe de travail pour l'urgence énergétique. Nous avons besoin de coopération et nous la recherchons. Et dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, la région Méditerranée, ceci est très important dans la gestion mondiale du climat et pour faire face aux enjeux. Nous sommes prêts à des coopérations transfrontalières. Et nous voulons partager nos expériences sur la protection climatique en misant sur les expériences, sur la gestion des ressources hydriques et du climat. Merci de votre attention.
Muito obrigado, senhora deputada.
Si, madame la députée, je passe la parole à monsieur le député de l'Égypte.
Au nom de Dieu le miséricordieux, le clément, Abu Hani, du membre du Parlement égyptien, je vous souhaite la bienvenue, chers collègues. Je remercie Monsieur le Président et les autorités portugaises pour organiser cette réunion excellente qui se dédie aux problèmes du monde entier, qui n'est pas restreinte à un seul pays ou autre. Et comme je l'ai entendu auparavant, que c'est une question existentielle et non pas d'un seul pays. Nous, au niveau de l'Égypte et en relation avec ce thème-là, de l'énergie, de l'environnement, de la protection des eaux, de la pollution, des océans. Nous sommes en Égypte. Nous tenons à relever ces tant de défis que tout le monde le sait, surtout les effets qui ont atteint tous les pays après la guerre mondiale et après la crise pandémique du coronavirus. Donc, autre chose que les textes législatifs sont nombreux au niveau de l'énergie, on a commencé actuellement à nous transformer aux énergies renouvelables et aux énergies vertes en reliant l'énergie avec d'autres, le thème de l'énergie avec d'autres pays méditerranéens. Ensuite, au niveau de l'environnement, il y a des législations et des textes législatifs obligatoires, d'application obligatoire, et nous sommes au niveau de l'Égypte en besoin de ce compromis de tous les citoyens égyptiens là où ils se trouvent pour savoir comment traiter l'environnement et le respecter, l'économie circulaire également. Nous, on sait qu'en tant qu'investisseurs et qu'experts en commerce, ils sont intéressés par l'économie et par les bénéfices. Il y a vraiment un suivi très, très minutieux pour ne pas influer sur l'environnement et les fabriques qui doivent se soumettre à un type d'auditing ou de monitoring pour être amis à l'environnement et ne pas la respecter ou la zone sous-jacente, donc, et pour autant ne pas influer sur la production agricole, sur les forêts, sur la vie humaine. Et sûrement en Égypte, ceci vraiment nous a influencés pour adopter tant de textes juridiques incitant tous les citoyens égyptiens et les contrôlant pour respecter l'environnement tant qu'il le faut. Monsieur le Président, chers collègues, nous sommes au niveau de la rive sud de la Méditerranée. Nous souffrons de la qualité d'eau. Également, les poissons desquels on se nourrit ne sont pas de grande qualité parce qu'il n'y a pas vraiment de contrôle des pêcheurs ou des bateaux de pêche, des contrôles minutieux. Donc, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent à leur guise, ce qui cause aux pays méditerranéens des effets négatifs, des maladies pour l'actuation ou les actuations irresponsables et non respectueuses de l'environnement entreprises par ces personnes-là. Cette optique, maintenant, est en train de se déplacer à tous les coins de l'Égypte pour relever ces défis. Et je crois que les lois concernant la distribution de l'eau et de la façon de son transfert d'une zone à une autre tient en compte le respect de ce défi et de pouvoir transmettre et disposer d'une vie digne à toutes les générations possibles et de faire disposer également l'eau potable à travers le respect de la dignité humaine et de faire vraiment distribuer cette eau à tous les coins de l'Égypte. Également, on a essayé de développer le réseau d'assainissement qui ne se trouvait pas dans pas mal de zones égyptiennes. Donc, ces projets d'assainissement ont été dernièrement développés qui atteignent de nos jours 57% en comparaison de 7-8% durant les dernières années. Et comme vous le savez, ça requiert d'investissements énormes et de sommes financières incroyables. Comme vous le savez très bien, nous sommes prédisposés à coopérer et nous avons besoin de coopérer avec tout le monde, avec tous les pays de la zone euro-méditerranéenne. Nous avons vraiment besoin de coopérer main sur la main parce que c'est une affaire de tout le monde et ou bien on vit tout le monde ou on meurt tout le monde. Donc il ne faut jamais oublier ces thèmes traités par cette commission et merci infiniment pour cet intérêt crucial. Merci infiniment.
Merci, monsieur le député. Qui veut prendre la parole? Madame la députée de Bulgarie. Je veux remercier les organisateurs pour cette réunion. C'est un plaisir d'être là. C'est la première fois que je suis ici dans le cadre de cette commission. Je veux réaffirmer notre engagement vers les recommandations qui sont présentes dans notre politique nationale et pour vous dire, la Bulgarie doit faire encore un long parcours pour satisfaire ses objectifs, mais le pays est capable de le faire et nous allons maintenant commencer à nous engager davantage et des pas ont déjà été pris. On travaille pour dans ce sens-là et pour la neutralité climatique et pour l'indépendance et la protection de la biodiversité et pour avoir une bonne relation avec la nature et pour penser à nos enfants. La Bulgarie est un petit pays. Notre part d'émissions mondiales, globales, n'est pas énorme, c'est seulement 8%, mais nous sommes un bon exemple et une inspiration pour ces pays qui ne sont pas encore sur le chemin de la neutralité climatique et je vous remercie encore.
Muito obrigado, senhora deputada.
Merci, madame la députée. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole sur ce point?
Microphone, le microphone. Merci beaucoup, merci. Chers collègues, c'était très productif qui a été dit. Malheureusement, nous devons prendre des décisions. On doit prendre des décisions sur le changement climatique et ce qui affecte nos régions, ce qui affecte trop nos régions. En Turquie, on a produit plusieurs travaux, par exemple, nous avons commencé certains aspects. Et pour nous, on a déclaré plusieurs aspects. 9 millions d'hectares jusqu'à 23, nous avons planté 5,2 millions d'arbres. Et cela est très important. La Turquie aussi a entamé d'autres projets. Et notre première dame, en 2017, une résolution qui a été soumise et qui a été adoptée à l'Assemblée générale des Nations Unies avec sur ce contexte. Nous voulons augmenter le recyclage 36% jusqu'en 2035. Cela va contribuer à la réduction de nos émissions. Et ce sont des mesures très importantes. Et encore une fois, c'est très important ce qu'a dit notre collègue égyptien. La Turquie aussi a réalisé plusieurs mesures cette année. Et on doit, ensemble, on doit prendre des décisions. Nous devons prendre des décisions ensemble. Et nous n'avons pas assez de temps devant nous. Voilà, il y existe des dangers. La région Méditerranée, quand on analyse, quand on regarde, il existe 2% et que la chaleur augmente. Tous ces aspects sont très importants. Quelles sont les ressources qui existent? Les ressources hydriques. Donc, il faut utiliser nos ressources hydriques. Soigneusement, 2,2% de la population qui n'ont pas accès à l'eau potable, manque de services d'assainissement. Donc, il faut essayer de résoudre tous ces problèmes ensemble. Nous devons être engagés. Et tout ce travail conjoint est important. Parce que nos gouvernements, nous devons pousser nos gouvernements à prendre des décisions dans ce sens.
Muito obrigado. Señor deputado de España.
Monsieur le député de l'Espagne.
Buenos días a todos y a todas. Agradecer al país que nos acoge esta buena acogida y para debatir sobre temas importantes.
Donc j'aimerais partager avec vous le plan de sécurité de l'Espagne pour la protection face à la montée des prix provoqués par la guerre en Ukraine et l'engagement européen, l'initiative de réduire la consommation de gaz, améliorer l'autonomie énergétique, augmenter la compétitivité de l'économie, élever les exportations énergétiques. En Espagne, pour la première fois, on a créé le ministère pour la transition écologique et le défi démocratique. Et avec cela, Et étant donné l'incertitude concernant l'évolution de la guerre et ses conséquences, et à présent, il y a toujours un bulletin public pour la poursuite de l'efficacité et l'économie énergétique du gaz, et nous avons pris des mesures. Ce plan comprend 73 mesures de sécurité énergétique réagroupées autour de 6 grands objectifs, l'économie et l'efficacité, transformation du système énergétique, amplification de la protection des citoyens, surtout les plus vulnérables, mesures de fiscalité, transformation de l'industrie grâce aux énergies renouvelables et les hydrogènes et solidarité avec le reste des pays de l'Union européenne. Et comme vous le savez, l'Espagne, au niveau européen, a inclus une analyse conjoncturale énergétique. Et à la différence d'autres pays européens, l'Espagne ne dépend pas d'importations énergétiques de la Russie. Et nous avons garanti cela à travers notre ministre. Et nous exportons de l'énergie et du gaz naturel au Portugal et en France. Et on souligne l'exportation énergétique nécessaire pour assurer la fourniture de nos voisins. Les mesures adoptées en tant qu'État membre de l'Union européenne dans une rencontre au niveau européen de notre ministre. Et nous savons qu'il est obligatoire, l'Espagne a demandé à jouer un rôle important dans cette crise énergétique et la politique que nous avons mise en route est menée dans d'autres pays de l'Union européenne. Il est important de savoir que nous devons laisser aux futures générations une terre propre et surtout, dans le cadre de la mer, éviter que ce qu'on peut consommer ne soit contaminé. Merci.
Muito obrigado, senhor deputado.
Merci, monsieur le député. Y a-t-il d'autres délégués qui souhaitent prendre la parole sur ce point-là?
Non, havendo mais.
S'il n'y a pas d'autres inscriptions, je veux remercier toutes les contributions et le partage d'idées de monsieur et madame les députés et vous informer que sur ce point, on va envoyer des formulaires pour l'envoi de contributions avec un délai qui permette l'introduction dans notre ordre du jour et le vote à la réunion que nous allons avoir dans le sein de notre commission à la marge de la réunion plénière qui aura lieu au Maroc. Et s'il n'y a pas d'autres questions pour la réunion d'aujourd'hui, je passe au point 7, la date et le lieu de la prochaine réunion, pour vous faire savoir que la prochaine réunion sera un peu différente de celle qui a été tenue ici aujourd'hui. Il s'agit d'une réunion thématique avec la participation d'académiciens portugais et étrangers, et elle aura lieu en mars prochain au Portugal, mais pas au Parlement portugais ni à Lisbonne, mais dans l'une de nos universités les plus modernes et les plus reconnues au niveau international dans le domaine du climat, de l'environnement et de l'énergie. Et je parle là de l'Université d'Aveiro. J'espère pouvoir compter sur votre participation et quelques délégations qui ne se sont pas rendus à cette réunion et qui ont participé seulement aux réunions en distanciel. Nous allons envoyer prochainement des informations sur le programme et nous enverrons prochainement donc des informations sur le programme qui vont inclure un programme social pour que vous puissiez connaître cette belle ville sur la côte nord du Portugal. Si vous avez aimé Lisbonne, vous allez aimer tout autant Aveiro et les projets qui sont développés là-bas dans le cadre de notre commission de l'énergie, de l'environnement et de l'eau. Et je voudrais vous dire aussi que cette réunion va terminer un peu plus tôt. On avait prévu sur le programme une visite à l'Assemblée de la République qui aurait lieu l'après-midi après notre déjeuner, mais on va pouvoir l'anticiper et on va avoir cette visite avant midi pour avoir un plan continu de notre temps et mieux organiser notre temps. Et à la fin de notre réunion, nous allons passer à la photo de famille, une photo de groupe, et après la photo de groupe, nous allons donc faire cette visite et ensuite nous allons déjeuner. Je vous remercie encore de votre présence et de vos contributions à ce débat et je vais clôturer nos travaux et j'espère pouvoir vous rencontrer en mars à l'Université d'Aveiro. Et merci beaucoup donc. Okay.